Bonjour, bienvenue dans votre quart d'heure. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de la mafia sicilienne. Nous sommes le 2 juillet 1874 en Sicile, non loin de Palerme. La plaine fertile qui jouxte la ville est parsemée de nombreux jardins d'orangers et de citronniers qui emplissent l'air de leur senteur doucereuse. Les cigales chantent et le vent chaud s'engouffre entre les murs délimitant les parcelles. Soudain, un coup de feu vient briser la quiétude des lieux. Un jeune homme, gardien d'une plantation de citrons, vient d'être abattu. Aucun témoin. Personne ne sait ce qui s'est passé. Quelques mois plus tard, le nouveau gardien est à son tour blessé par un coup de feu. Au même moment, dans sa maison de Palerme, Gaspare Galati, un médecin propriétaire de la plantation, reçoit des lettres de menace. On le somme de réembaucher un certain Benetto Carollo pour s'occuper de surveiller ses agrumes, sans quoi il doit considérer que lui et sa famille sont en danger. Pour le médecin, il est hors de question de réembaucher Carollo, qu'il a justement renvoyé lorsqu'il a découvert qu'il se servait allègrement dans les récoltes pour son propre profit. Le docteur Galati se plaint à la police, mais rien ne se passe. Les menaces continuent. Craignant pour sa sécurité, il part pour Naples avec sa famille. Galati a bien compris qu'il avait mis le doigt dans un engrenage qui le dépassait. Ses lettres envoyées au ministère de l'Intérieur n'y vont rien changer. C'est que Benetto Carollo, le premier gardien congédié pour s'être servi dans les récoltes, vient de la petite bourgade d'Uditore. Il appartient à une cosca, sorte de groupe secret d'entraide et de soutien qui structure une bonne partie de la société rurale sicilienne. Un groupe que l'on peut considérer comme base des clans d'une mafia que l'on ne connaît pas encore sous le nom qui entrera dans la légende, Cosa Nostra. Avant de trafiquer armes et drogues à travers le monde, Cosa Nostra s'est développée en partie grâce au citron. Les origines de la mafia sont complexes et encore en partie mystérieuses, mais le terreau de sa croissance est bien celui de la Conca d'Oro, cette plaine aux portes de Palerme plantée de milliers de citronniers qui ont fait la richesse de l'aristocratie locale. Si le citron est longtemps resté un produit de luxe dédié à la parfumerie ou au plaisir de quelques élites, la découverte au milieu du XVIIIe siècle de ses effets bénéfiques contre le scorbut, maladie qui décime les marines européennes depuis la Renaissance, en a fait un produit très convoité. Au 19e, la Sicile est la principale pourvoyeuse en agrumes pour les marines britanniques puis américaines. Les grands propriétaires de l'île investissent beaucoup dans les plantations et se créent ainsi une confortable rente qui rapporte bien plus que la vigne, les olives ou le blé traditionnellement cultivé. Une rente qu'ils veulent protéger, surtout d'autant plus dans une époque particulièrement agitée. Au long de son histoire, la Sicile a appartenu à de nombreuses puissances étrangères et n'est intégrée à l'Italie unifiée qu'en 1861. Les structures sociales héritées de la féodalité ont du mal à céder la place à un nouvel ordre étatique. Les révoltes sont nombreuses, le désordre règne et le brigandage est partout présent face à l'absence de réelle puissance publique. Et puisque l'État ne peut pas assurer la sécurité, les cosca vont s'en charger. Ces clans, essentiellement ruraux, se tournent naturellement vers la protection des précieux jardins d'agrumes au bénéfice des bourgeois propriétaires. Les mafieux sont d'abord gardiens, puis contremaîtres, et deviendront ensuite vendeurs, entremetteurs et négociants en jouant sur leur réseau d'affinités, n'hésitant pas à se servir au passage pour leur propre intérêt. Et si quelqu'un déplaît, comme un gardien étranger à la communauté, il suffit de l'éliminer. Petit à petit, les liens d'entraide et d'obligeance se tissent à travers toute la société sicilienne, hors des cadres que le royaume d'Italie cherche en vain à imposer. Un prêtre, un bourgeois, un policier ou un député sont rapidement plus redevables à la mafia qu'à l'État, qui se retrouve fort démuni. La mafia impose ainsi ses propres lois, notamment l'omerta, la loi du silence, en punissant sévèrement toute trahison. L'homme qui parle beaucoup s'enterre avec sa propre bouche, dit alors une chanson à la mode. Le système local s'internationalise et se diversifie. Les clans sont soudés par une éthique et des rites initiatiques teintés de magie et de religiosité. Tranquillement, l'organisation que l'on surnommera plus tard la pieuvre étend ses tentacules. Les mafieux s'enrichissent et affirment leur domination en exigeant le piso, un impôt de protection qui n'est autre que du racket. On associe souvent mafia et trafic, notamment de drogue. Mais le racket a en réalité beaucoup plus d'importance pour son ascendant, pour le contrôle du territoire, pour reprendre une expression propre aux mafieux. En substance, le scénario est très simple. La mafia propose une protection en échange d'argent, mais une protection contre elle-même. Les menaces directes, paix, où j'abats tous les citronniers et je séquestre tes enfants, était beaucoup moins fréquente que ce que l'on pourrait appeler un petit théâtre de marionnettes. Un mafieux envoyait une lettre en proférant des menaces terrifiantes. Un autre mafieux contactait alors la victime en se montrant réconfortant. Du calme. Je connais ceux qui t'ont envoyé la lettre. Je vais leur parler. Je peux faire baisser le prix. Tous les propriétaires terriens qui acceptaient l'offre, et très peu avaient une alternative, amorçaient alors un déclin inexorable. D'autres offres se succédaient ensuite. Je peux placer des gardiens fiables dans tes plantations. Je peux me charger de la gestion de tes terres. Mes amis politiciens peuvent t'aider et s'assurer de la construction du pont dont tu as besoin. Très vite, le propriétaire perdait la totalité du contrôle de sa propriété. Il n'est donc pas surprenant que la méthode traditionnelle d'assassinat de la mafia du 19e ait consisté en une embuscade à l'arme à feu dans l'enceinte même des plantations de citronniers ou sur les chemins qui serpentaient entre les plantations permettaient de transporter les fruits vers la ville. Mais des luttes fratricides apparaissent vite, avec leur lot de violences qui obligent les autorités nationales à intervenir. Un premier grand procès se tient en 1901. Malgré quelques condamnations, de nombreux mafieux bénéficient de protection et peuvent donc repartir tranquillement à leurs affaires. Et les affaires vont bien. Elles prennent même de l'ampleur. Le commerce du citron n'est plus aussi juteux depuis que la Floride a développé sa propre production. Mais le soufre, très présent sur l'île et très utile à l'industrie, le devient. Une fois un pied dans le commerce international, rien de plus facile que d'y mêler la contrebande. La mafia s'internationalise. Entre 1900 et 1914, ce ne sont pas moins de 800 000 Siciliens qui émigrent aux États-Unis. Les mafieux s'y mêlent et vont pouvoir organiser des trafics illégaux sur deux continents. L'arrivée au pouvoir de Mussolini et de son intransigeant préfet Cesare Mori semble un moment porter ses fruits. Mais on ne se débarrasse pas comme ça de la Cosa Nostra. L'organisation est si largement enracinée qu'il est compliqué de s'en prendre à ses membres sans s'en prendre à tout le monde ou sans éclabousser les autorités. Certains ont beau être arrêtés, rien ne vient gripper la machine qui se déploie au-delà des individus. Là est le secret de la réussite. Si vous coupez un tentacule à une pieuvre, il repousse. Après-guerre, l'organisation est toute puissante. Le pizzo s'abat sur quasiment tous les commerces de l'île. Rappelez-vous, c'est le fameux impôt racketté. La mafia gère le foncier, les déchets, l'urbanisme, la politique et bientôt le trafic international d'héroïne.
Mamma mia, mamma ridare. Figlia mia, guda dare, mamma mia, pensaci tu.
Pensaci tu, pensaci tu, pensaci tu, ci tu, ci tu.
Se ti rugnano pompieri, vai, dove ni sembra bomba a mano te. Se c'è che fa la fantasia, la bomba tutta la figlia mia.
Uè mamma, me voglio marità. Uè mamma, pesce fritte, baccalà, baccalà. E dove sta? E chi ti doma?
Les années 1980 et la fin du secret Cosa Nostra. Vous écoutez la Tarantella sicilienne sur le quart d'heure.
E la luna mienzo mare, mamma mia, mamma ridare.
Mais en Italie, on n'admet pas toujours l'emprise de la Cosa Nostra, et parfois son existence en tant que réelle organisation. Il faut d'ailleurs attendre les premières défections et témoignages de repentis dans les années 1980 pour découvrir le nom même de Cosa Nostra qui signifie « notre chose, ce qui est à nous », marquant le caractère exclusif et structuré de l'organisation. Les enquêtes et révélations de Maxi Processo de 1986 à 1987, procès au cours duquel 475 accusés furent jugés et le juge Falcone tué, mettent au jour les compromissions, crimes et strates d'un système pyramidal extrêmement bien coordonné. L'Italie prend dès lors réellement conscience de la mainmise de Cosa Nostra sur la Sicile, influence qui, selon certains, tend à s'affaiblir. Mais elle est loin d'avoir disparu, si elle ne fait plus dans le citron, Cosa Nostra a encore du jus. Voilà, c'est la fin de ce quart d'heure, j'espère que cet épisode vous a plu sur la mafia sicilienne connue de presque tous, Cosa Nostra, notamment à travers divers films que je vous encourage à regarder comme Le Parrain ou encore Le Clan des Siciliens. J'espère que cet épisode vous a plu, que cette histoire de petit cartel qui contrôlait les plantations de citrons de Sicile et qui en sont arrivées à une large mafia internationale et reconnue comme telle aujourd'hui vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Très bel après-midi à tous à l'écoute du quart d'heure.